par rapport à cette, j'allais dire table ronde, c'est pas une table ronde, c'est une intervention collective, à la différence donc des autres enquêtes de terrain qui vont être présentées au cours de cette journée et qui relèvent précisément des programmes d'études et de recherche de la BPI, la recherche-intervention dont nous allons rendre compte collectivement, du moins le projet de recherche-intervention, n'a ni été commandité, ni même initié par la BPI. Donc je n'interviens pas personnellement en tant que chercheur dans cette entreprise collective. Plutôt, j'ai joué un rôle de tiers, on pourrait dire de témoin engagé par certains côtés, de compagnon aussi. Voilà, et pour bien commencer, il me semble justement important de revenir un peu sur l'origine du projet. C'est d'autant plus important que la recherche elle-même, vous allez le comprendre assez vite, a été interrompue sous la forme qui lui avait été donnée au départ et qu'elle a basculé dans un autre dispositif qui vous sera présenté, qui vous sera détaillé au cours des interventions qui vont suivre, mais qu'un collectif est né de cette expérience. Voilà. Donc ce collectif est en partie présent ici à la tribune, représenté par Raphaël, Marion et Joël, mais ce n'est qu'une partie du collectif. C'est un petit groupe de réflexion diversifié, puisqu'il comprend, vous l'avez compris, des chercheurs et des professionnels d'horizons assez variés. Je pourrais dire soudé par la même volonté de tirer du sens des expériences professionnelles vécues, même des expériences difficiles, même des expériences interrompues, puisque c'en est une, quitte parfois à devoir remettre en question un certain nombre de principes bien établis ou qu'on pensait bien établis, et ça on va vous en donner des exemples également. Voilà, pour résumer, je serais tenté de dire qu'il est question ici d'une expérience scientifique, parce qu'elle a un caractère scientifique, professionnelle, parce qu'elle est vraiment ancrée dans un territoire, dans un établissement donné, dans des pratiques et dans un quotidien. Une expérience intellectuelle aussi, mais aussi tout simplement une rencontre. Et ça, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Alors, justement, la première rencontre importante à signaler pour témoigner des origines du projet, c'est une intervention de Joël Bordet dans une journée d'études organisée par l'ABF en 2016 et qui était consacrée au rôle social des bibliothèques. Joël Bordet est psychosociologue, chercheur longtemps associé au Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc on pourrait dire dans un univers qui pour le moment n'est pas celui de la bibliothèque ou des pratiques culturelles, même s'il n'en est pas complètement éloigné. Et c'est Hélène Benon, membre de l'ABF Île-de-France, donc l'Association des bibliothécaires de France, Hélène présente dans la salle et qui aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'intervenir au cours de la discussion, directrice de la lecture publique à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui joue alors le rôle d'intermédiaire pour cette rencontre. Hélène, pour nourrir son travail et trouver des appuis opérationnels, s'est intéressée à la psychosociologie des organisations et a collaboré avec des chercheurs proches de Joël Bordet. Voilà, Bernard Champagne et Antoine Cattard, pour les citer plus précisément. Il lui signale les travaux que Joël a réalisés avec des jeunes en milieu urbain, avec lesquels elle organise notamment des ateliers d'expression collective, en obtenant des résultats intéressants et même encourageants par certains côtés. Alors il faut se resituer dans le contexte qui est le contexte de l'après-Charlie, ça a toute son importance. Et la question du rôle social des bibliothèques et des institutions est reposée à cette occasion, remettez-vous dans cette chronologie. La question aussi de la cohabitation avec les publics jeunes, celle du sens et de la spécificité du métier de bibliothécaire, sont également reposées à cette occasion. Alors, suite à cette rencontre initiale, Hélène et Joël se promettent de travailler un jour ensemble avec la bibliothèque et ses publics jeunes en point de mire. Hein. L'occasion est trouvée 2 ans plus tard, et cette fois-ci, c'est une nouvelle rencontre avec Raphaël Gilbert, avec le concours actif de la délégation à la coopération nationale et internationale de la BPI, Éléonore Clavreul, qui doit être présente quelque part, et à nouveau l'ABF. Un projet de recherche-intervention psychosociologique sur le rôle social de la médiathèque de Choisy, représenté par Raphaël Gilbert, est alors mis sur pied. Le service études et recherches de la BPI est associé à l'opération pour suivre le travail de terrain et y participer. Nous étions évidemment très intéressés par l'objet même de l'étude, le rôle social des bibliothèques de Choisy sur un terrain spécifique, mais nous étions également très intéressés par la méthode qui allait être mise en œuvre, donc la méthode de la recherche-intervention, qui est très éloignée, il faut le dire, de nos, on va dire, de nos approches habituelles en sociologie de la culture, et en particulier en ce qui concerne la sociologie des publics des bibliothèques. Donc il y a à la fois un rôle de témoin qu'on souhaitait jouer, mais il y avait aussi une curiosité intellectuelle qui était assez forte et qui n'a pas été déçue. Alors, la suite, je propose dans un premier temps à Marion Moulin de la raconter. Donc, Marion est l'ancienne responsable des partenariats et du développement des publics du réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi. Elle était en poste de janvier 2018 à décembre 2020, donc ça couvrait justement le champ de prévu pour la recherche-intervention. Et elle est directrice des bibliothèques de Gentilly depuis janvier 2021. À la suite de Marion, Raphaël Gilbert, donc, comme je l'ai dit, ancienne directrice de la bibliothèque de Choisy, actuellement en poste au ministère de la Culture, s'occupant plus précisément de dossiers qui touchent au numérique et à la formation professionnelle des bibliothécaires. Donc tu prendras la suite de Marion. Et Joël Bordet fermera la marche, à la suite de quoi nous engagerons la discussion que j'espère nourrie avec la salle. Marion, je te passe la parole.
Merci Christophe. Du coup, comme l'a dit Christophe, moi j'ai été membre de l'équipe de direction des médiathèques de Choisy-le-Roi pendant 3 ans en tant que responsable du développement des publics et des partenariats, donc auprès de Raphaël. Et c'est depuis ce poste que je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé, la crise qu'on a traversée, la rencontre avec Joël et tous les apports finalement de la recherche-intervention par rapport à mon poste, et particulièrement sur la question partenariale et la question de l'accueil. La médiathèque Aragon, donc, qui a été un peu le centre de cette recherche, a ouvert en 2013 avec un afflux massif des adolescents dès l'ouverture, un afflux qui n'avait pas nécessairement été anticipé du fait de la situation précédente. Il y a eu beaucoup de solutions adaptatives qui ont tout de suite été mises en place pour accueillir ce public très nombreux. Alors, ça passe par des formations de l'accueil, recrutement d'un responsable ado, une modification de l'organigramme, des médiateurs, des procédures mises en place au sein de l'équipe en cas d'incivilité, avec des séances d'immersion, des rencontres avec les parents, un développement du travail partenarial très intense aussi, avec notamment le lien avec les collèges, une convention qui a été passée avec l'ensemble des collèges de la ville dans lequel la médiathèque s'engageait à accueillir tous les 4e de la ville, des liens avec les services municipaux aussi, et notamment le service jeunesse, qui est à la fois un service et une structure, puisqu'ils ont une maison de la jeunesse qui accueille les adolescents, et le service enfance. Sur ce partenariat précisément, alors il y avait des partenariats de projet, mais aussi à notre demande, les animateurs venaient en renfort pendant les vacances scolaires ou sur les temps où on était un peu débordé par le public adolescent. Et puis des liens aussi avec la direction de l'espace public, notamment sur les remontées d'incidents qui pouvaient avoir lieu dans la médiathèque ou dans les abords immédiats et qui avaient une incidence directe sur la vie de la médiathèque. La mise en place aussi d'un espace ado, car il n'y avait pas dans la médiathèque d'espace précis, dans l'architecture en tout cas, du lieu pour les adolescents. Et comme on était un petit peu submergé par le flux des adolescents partout dans les salles, qui chassaient les autres publics, puisqu'on a perdu quasiment tous les publics seniors, une grosse partie du public familial et de toute petite enfance, On avait pensé que c'était une bonne idée de créer cet espace adolescent pour les regrouper et leur offrir un espace dédié. Donc, parallèlement à toutes ces mesures, en fait, le travail avec Joël a commencé, donc en 2019, et avec dès le départ une rencontre avec tous les partenaires socio-éducatifs et culturels de la ville. Et ce que Joël a mis en lumière dès le départ et qu'elle a pointé du doigt, c'est que toutes ces mesures, elles étaient certes pas inintéressantes, parfois efficaces, mais qu'en fait, on s'était trompé d'objet de travail, qu'on avait travaillé sur le... On avait pris comme objet de travail la violence et les incivilités, et alors que ce n'était qu'un symptôme et qu'on n'avait pas travaillé sur le bon objet. Donc déjà, ça nous a permis de changer un petit peu de focal sur l'orientation de notre travail. La deuxième chose, ça a été de nous montrer à quel point le partenariat qu'on avait avec le service jeunesse, notamment, était complètement dysfonctionnel, puisque en fait, on avait fait appel à eux un peu comme des pompiers de service, en leur demandant de venir sur les temps où nous, on était débordés par les adolescents, pensant profiter de leur expertise, mais faisant ça, en fait, on les a mis en difficulté et on niait leur métier et leur rôle premier et leur façon d'agir et de créer du lien avec les jeunes. Et puis surtout, en fait, elle nous a aidé à réaliser que le lieu avait perdu sa fonction auprès des jeunes et des adolescents, qu'on était devenu le lieu de centralité d'accueil de tous les jeunes de la ville et non plus un lieu d'accueil parmi d'autres dans la ville, que le lieu était devenu anomique pour les jeunes, que les fonctions et les règles n'étaient plus identifiées. Et que tous les jeunes venaient massivement, mais pour autre chose que la médiathèque, donc à savoir le Wi-Fi, les prises pour recharger les téléphones, les toilettes et des canapés confortables pour s'installer en groupe, mais n'utilisaient plus les services de la médiathèque. Et surtout, quand on a réalisé ça, nous, on s'est rendu compte qu'on était tellement phagocytés par l'énergie que ça nous demandait, la gestion de ce flux, qu'on avait perdu de vue notre travail. On n'était plus en capacité de faire le travail de médiation ou de passerelle entre l'offre culturelle qu'on pouvait proposer et ces jeunes qui étaient là présents massivement. On était vraiment dans une gestion de l'immédiateté et de l'urgence. On avait un peu perdu le contrôle du temps. Quand on dit des jeunes très nombreux, il faut imaginer parfois jusqu'à 200 jeunes dans la structure, répartis sur tous les secteurs, avec des groupes très importants. Et du coup, le temps de service public qui était dédié à gérer ces groupes et à gérer l'affluence et faire en sorte que ça se passe au mieux avec tous les publics. Et un temps, donc de nombreuses incivilités, et un temps en interne qui était complètement pris par la remontée d'incidents, finalement, et faire des rapports sur ce qui s'était passé, débriefer du service public de la veille, etc. Et à ce moment-là, donc ça a vraiment pris de l'ampleur, on va dire, en 2019. Et avec tout ce que Joël nous disait, à ce moment-là, moi, j'ai réalisé que, en fait, le curseur avait glissé et qu'à force de penser les usagers au centre dans le projet d'établissement et dans notre façon d'accueillir, on était passé d'un lieu culturel au service des usagers à un lieu public qui adaptait ses services aux usagers et avec éventuellement une fonction culturelle, mais qui était devenue vraiment au second plan. Et du coup, ça a été la prise de conscience d'une forme d'idéalisation de l'accueil aussi. Et en fait, en prônant un rôle social très fort, hein, qui était une idée très, très investie et très marquée dans l'ensemble de l'équipe, et particulièrement en plus porté par mon pôle, qui était le pôle partenariat et développement des publics, avait cette volonté donc d'accueillir tout le monde sans condition, et on avait perdu en fait la fonction centrale culturelle. À l'été 2019, il y a eu un tournant avec un épuisement du personnel. L'été a été très difficile, alors que normalement c'était une période plutôt calme, avec beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup d'annonces de départ, un turnover important dans l'équipe. Et puis pour nous, le sentiment d'une perte de contrôle, avec notamment les jeunes qui faisaient de la médiathèque leur territoire. Et nous, on n'avait plus la main mise sur ce qui se passait dans la médiathèque. Par exemple, les jeunes ont commencé à venir avec leurs propres chaises et s'installer avec leurs propres chaises dans la médiathèque. Ils n'en arrivaient plus à le gérer. Il y a eu à ce moment-là aussi le tournage d'un clip aux abords immédiats de la médiathèque, dont peut-être Joël parlera après, je la laisserai en parler. À ce moment-là, on a décidé de redéfinir les règles d'accueil pour redonner une fonction au lieu. On s'est rendu compte à quel point c'était essentiel. Et même si ça n'a pas été simple à faire passer auprès de l'équipe, l'équipe de direction, on a maintenu le cap et on a vraiment travaillé ça avec un groupe de collègues dès la rentrée. L'idée était de faire une charte d'accueil qu'on ferait signer par le public adolescent mineur, en présence ou non des parents en fonction de s'ils venaient seuls ou accompagnés à la médiathèque, pour une mise en application aux vacances de Toussaint. Sauf qu'en fait, on a été pris par le temps. Juste avant les vacances, on a eu une semaine particulièrement éprouvante qui, en fait, a amené à une décision collective de l'équipe d'exercer son droit de retrait. Et la médiathèque a été fermée. Du coup, cette fermeture et ce droit de retrait, ça a été un point de rupture. Ça a été un point de rupture, évidemment, dans la vie de l'équipe, dans le projet qu'on menait, mais ça a été aussi un point de rupture dans le travail qu'on faisait avec Joël, parce que d'un travail de recherche, on a basculé clairement dans l'intervention, et Joël a été extrêmement présente sur cette période pour nous aider à sortir de la crise. Il y a eu un changement d'échelle qui s'est fait tout de suite. C'est-à-dire que jusque-là, ces problèmes d'incivilité, de gestion des jeunes, c'était plus ou moins le problème unique de la médiathèque. C'était le problème de la médiathèque qui, avec l'exercice de droit de retrait et avec cette fermeture brutale, est devenu le problème de tout le monde. Il y a eu une implication notamment très forte, grâce à Joël, de la direction générale qui s'est saisie du dossier et qui nous a aidés à pouvoir rouvrir sereinement. Dès les premiers jours de cette fermeture, on a mis en place un énorme travail partenarial avec une journée partenariale dont je reparlerai après. Et puis surtout, on a continué dans l'optique de changer les règles d'accueil, avec cet enjeu très très fort que le lieu soit de nouveau identifié avec des fonctions claires et qu'il refasse autorité. On a renoncé à une forme d'accueil sans fonction et sans règles. On s'est rendu compte que les jeunes n'identifiaient pas la fonction du lieu en dehors des projets partenariaux et qu'il fallait changer ça. Et on a accepté aussi que tout le monde ne puisse pas entrer dans la médiathèque sans condition. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la réouverture, on a réouvert progressivement pendant 5 semaines sur les mercredis et samedis avec l'ensemble des partenaires qui étaient présents, avec des stands. Donc on avait la jeunesse, l'enfance, les sports, les centres sociaux et d'autres partenaires qui nous aidaient à réaccueillir le public, ce qui a été aussi un moment très fort de solidarité collective pour l'équipe, de voir que les autres collègues municipaux étaient présents. Et on faisait donc signer cette charte à tous les jeunes mineurs qui rentraient dans la médiathèque avec une discussion avec eux. Et en signant cette charte, en fait, les jeunes s'engageaient à utiliser le lieu pour ses services. Et ça a été un moment très fort parce qu'on a énormément discuté avec les jeunes, avec les parents, avec leurs représentants légaux. On s'est rendu compte qu'ils partageaient en fait les mêmes inquiétudes que nous, hein, finalement, et qu'eux-mêmes s'étaient sentis en insécurité, avaient eu peur et qu'ils étaient très contents de ce changement de règles. Et puis, on s'est aussi rendu compte que la vingtaine de jeunes sur lesquels on avait un peu focalisé notre attention depuis 3 ans avait complètement éclipsé tous les autres et tous les autres adolescents qu'ils fréquentaient, puisque en 4 mois après la réouverture, on a fait signer 1200 chartes. Et c'était une surprise pour nous de voir qu'on avait autant de jeunes qui fréquentaient, en fait. Les deux autres petits points, ça a été, ça Joël en reparlera aussi, le fait de couper le Wi-Fi en dehors des horaires d'ouverture et de positionner de façon pérenne un agent conciliateur au rez-de-chaussée. Parce que la médiathèque de Choisy, pour ceux qui ne la connaissent pas, est en bord de Seine, donc c'est une zone inondable, donc elle est construite sur pilotis. Ce qui fait que sous la médiathèque, on a une sorte d'immense préau qui est ouvert pendant les heures d'ouverture de la médiathèque, mais où du coup, il se passait beaucoup de choses, et c'était compliqué pour l'équipe de faire... Enfin, il n'y avait pas de filtre, en fait, entre l'extérieur et l'intérieur, et du coup, c'était très compliqué de savoir où intervenir et de calmer les incidents de l'extérieur qui remontaient dans la médiathèque. Dès l'ouverture, la médiathèque a été complètement transformée, dès la réouverture, pardon, avec une forte fréquentation. Le public est revenu et surtout est revenu avec une vraie mixité des publics. Et on a récupéré le public qui ne venait plus, et notamment les personnes âgées et les tout-petits. Les jeunes sont revenus, nombreux. Sur les 1200 chartes dont je parlais, il y en a 2 qui ont refusé de signer la charte. Donc ça a été quand même très... Enfin, de façon... globalement très bien accueilli par les jeunes, et puis surtout on s'est retrouvé à refaire énormément de conseils, énormément de médiation culturelle et littéraire, à tel point qu'on parlait que de ça au moment de la réouverture quand on débriefait des journées de service public, parce que c'était devenu complètement c'était rare en fait, et le fait que ça revienne comme ça, on était très contents de réexercer notre métier, et moins nombreux à l'accueil aussi, et surtout on avait repris la gestion du temps, on n'était plus dans la crainte d'aller au public, de ce qui allait se passer, on avait repris véritablement la main sur nos fonctions et sur le temps de l'équipe. Je vais faire un petit focus sur ce que tout ça, enfin le travail avec Joël a pu nous apporter, et ce travail... de recherche avec elle et de traversée de la crise, en parlant en particulier des partenariats. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la médiathèque s'est repositionnée vis-à-vis des partenaires et il y a eu une restructuration du jeu d'acteurs au niveau local. En fait, on faisait l'erreur de travailler avec nos partenaires que sur la crise. J'ai donné l'exemple d'appeler les animateurs de la Maison de la Jeunesse pour venir nous aider. Et on a réalisé qu'on ne pouvait pas construire le partenariat sur la crise et qu'on les avait sollicités en dehors de leur champ de compétences et qu'il fallait travailler ça autrement. On a organisé des journées partenariales. Donc, comme je le disais, la première au moment du droit de retrait et on en a refait une en octobre 2020, donc quasiment un an après, un peu journée de bilan. Et ça a été un moment vraiment essentiel parce que, alors c'était sur invitation de la direction générale, donc tous les services étaient présents, enfin tous les services socio-culturels, éducatifs qui pouvaient avoir un lien de près ou de loin avec la médiathèque étaient présents. Et ça a permis à chacun d'exprimer ses positions, de repartir un peu sur de bonnes bases, mais surtout de déconstruire les représentations qu'on avait les uns des autres entre les services. Et on s'est rendu compte que, en fait, on avait une vision extrêmement erronée les uns des autres de nos métiers, de nos missions, de fonction de nos lieux et de ce qu'on pouvait en attendre. Et ça a aussi montré le manque finalement de culture commune sur la ville et le décalage entre les représentations et la réalité du terrain. Et ça a permis aussi, nous en interne, à l'équipe, de savoir comment on était perçu par les autres collègues de la ville et le fossé qu'il pouvait y avoir avec certains services. De fait, chaque partenaire a repris sa place. Nos représentations ont évolué. On a arrêté de solliciter les partenaires sur des choses qui n'étaient pas de leur ressort. Et le fait qu'on n'intervienne plus à la place d'autres ou qu'on les sollicite de façon erronée, chacun a repris sa place. Et par exemple, ce qui a été le plus marquant, c'est que le service jeunesse et par exemple les centres sociaux, qui étaient complètement absents du quartier, à partir de ce moment-là, ont commencé à investir le quartier avec des actions hors les murs. Et il n'y avait plus que la médiathèque qui était seule présente sur le quartier. Et puis, à titre personnel aussi, ce que j'en retire sur la question partenariale, c'est qu'on a vraiment dépassé le mode projet, qui est une culture professionnelle dans laquelle on baigne et à laquelle on nous assigne quand même assez de façon importante. On avait perdu de vue complètement le partenariat relationnel et le partenariat de lien à créer avec nos collègues avant même de passer en mode projet. Et ça a été une vraie dynamique qui s'est lancée et qui a continué, parce que ça a permis notamment un travail partenarial de très grande qualité pendant le premier confinement et qui dure toujours. Juste pour conclure, moi, à titre personnel, cette recherche-intervention, Christophe l'a dit, ça a été mon poste, en fait. Enfin, ça a jalonné de bout en bout mon poste, les 3 ans que j'ai passé là-bas. Donc, du coup, ça a véritablement... Enfin, j'ai construit mon poste en fonction de tout ce qui s'est passé aussi. Donc, la traversée de la crise, évidemment, mais aussi les projets, l'évolution de ma posture d'encadrante, le rapport avec les partenaires, avec les élus, avec la direction générale. Et puis, ça a permis de faire évoluer profondément des lignes professionnelles. Donc, j'ai parlé de l'accueil, j'ai parlé des partenariats. Ça a aussi été un grand éclairage sur la question du conflit, que ce soit le conflit dans les équipes ou le conflit entre les publics. Et puis surtout, moi, à titre personnel, ça m'a permis de dépasser cette crise, parce que tous ces moments d'échange, de réflexion, tous les apports intenses de Joël, de domaines qui étaient étrangers, qui n'étaient plus ou moins étrangers, sont venus nourrir finalement ce qu'on vivait. Donc, je pense notamment à la psychologie sociale, à tout ce que la connaissance très fine de Joël sur les jeunes des quartiers populaires, la sociologie urbaine. C'est vraiment, moi, ce qui m'a permis de continuer à penser pendant cette crise, de poser des mots sur ce qu'on vivait, de prendre du recul et surtout de ne pas renoncer et de réussir à la transformer et de dépasser cette crise. Voilà.
Je vais prendre la suite. Du coup, moi, j'ai, au sein de ce comité de pilotage, du coup, qui était constitué avec l'ABF, l'ABPI, moi, j'occupais la fonction de direction du réseau et j'étais arrivée à choisir pour ouvrir la nouvelle médiathèque. Donc, j'avais porté le projet depuis ses origines. Et c'est un projet qui était articulé autour de 2 lignes fortes. La première, c'était l'innovation. Il y avait une très forte appétence pour la transformation publique. Et puis, tant qu'à ouvrir un nouveau lieu, un nouveau projet pour un nouveau public, on voulait repenser les services. Donc, on s'était inspiré de tout ce qui était troisième lieu, participation du public, design de service, nudge, organisation apprenante et compagnie. Et puis le deuxième axe fort, c'était le rôle social de la bibliothèque et la fonction d'inclusion sociale. On travaillait dans une ville populaire. Et ces deux axes, l'innovation de rôle social, étaient très fortement portés aussi par la municipalité au moment du projet d'ouverture. Alors je ne vais pas revenir sur les difficultés qu'on a rencontrées, les incivilités au fil des années qui, au bout d'un moment, se sont muées en situation de violence. Pardon, je peux me rapprocher, hein, excusez-moi. Mais c'est pour dire que, à la fois, le quotidien d'accueil est extrêmement difficile pour l'équipe, épuisant, hein, il faut le souligner. Et en même temps, il y avait quelque chose de valorisant à avoir le sentiment que les jeunes étaient là, les adolescents étaient présents, on avait une mixité de public, donc on avait le sentiment, malgré tout, d'une forme de réussite. Et puis la médiathèque bénéficiait d'une image positive, on était très attractif en termes de recrutement. Et ça, je pense que ça a contribué un petit peu à une forme de déni et que ça a certainement retardé la résolution de la situation. Et que Joël nous a aidés à déconstruire pas mal de choses. Alors, au départ, la recherche-intervention, elle est arrivée pour moi comme une forme de continuité avec ce projet qui se voulait innovant, c'est-à-dire que la BPI et l'ABF recherchaient un terrain pour une recherche-intervention. Joël nous avait expliqué qu'une recherche-intervention, à la différence d'une recherche habituelle, ça venait co-construire de la connaissance avec les parties prenantes pour créer du changement. Donc ça correspondait à l'ADN de ce projet-là. Et puis il s'agissait de réfléchir au rôle social de la médiathèque, aux fonctions et limites de la médiathèque troisième lieu, à la façon de faire cohabiter les publics. Donc ça s'inscrivait vraiment dans le projet initial. Mais par contre, cette recherche, elle est venue déconstruire en réalité beaucoup de choses du projet initial. Et c'est ça qui a été intéressant. On a eu vraiment cette chance d'avoir l'apport de disciplines qu'on apprend peu, hein, dans les formations initiales, que sont la psychologie sociale, l'analyse urbaine notamment, l'approche systémique. Et ça, c'est vraiment venu bousculer le projet. Alors ça a été très douloureux parce qu'à la fois, il fallait affronter la crise, les situations de violence, hein, c'était quand même pas facile tous les jours, et puis en même temps, il fallait accepter la remise en cause, parce que cette recherche, elle est venue, mais de la même façon que les ados font ça très bien, ça s'insérer dans les failles, mais cette recherche, elle est venue s'insérer dans les failles et dans les impensés du projet initial. Comme on est nombreux et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne pourra pas tout développer, mais je voulais vous parler de trois choses qui, pour moi, sont vraiment venues de manière marquante transformer mes représentations professionnelles. La première, c'est sur la question de l'inclusion sociale. Marion a parlé de ce lieu qui avait perdu la règle, qui était devenu anomique. Et en fait, on avait voulu un accueil très ouvert, on avait voulu une mixité de public, on avait voulu aussi s'adapter aux pratiques des jeunes, les accueillir un peu comme ils étaient. On avait mis en place une communication assez désinstitutionnalisée, un peu fun, un peu attractive autour du lieu. Et je pense que tout ça, bon, ça a permis de capter du public, hein, ça a contribué à l'image de la médiathèque et à son attractivité. Mais en même temps, ça a aussi contribué, il y a une question de curseur, ça a contribué à en faire un lieu anomique. Et ce n'est pas parce que les jeunes, moi ce que j'ai mis du temps à comprendre finalement, c'est que ce n'est pas parce que les jeunes étaient là qu'on faisait mixité sociale, qu'on leur apportait quelque chose et qu'on avait une réelle cohabitation. Et finalement, remettre des règles très strictes, hein, qui ont pu paraître radicales, obliger les jeunes à utiliser les services de la médiathèque, ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on peut prôner dans le métier habituellement. D'une certaine manière, pour moi, ça n'a pas été revenir à une vision descendante de l'accueil, mais proposer finalement au public un cadre commun à l'intérieur duquel on pouvait faire bien commun de cette médiathèque et cohabiter. Et expliciter et assumer la règle beaucoup plus fermement auprès des jeunes, même si ça s'est fait dans le dialogue et dans un dialogue positif, c'était aussi une façon de les inclure, parce qu'en fait, bon, les règles, tant qu'elles sont implicites, on les donnait, mais malgré tout, elles restaient trop implicites. Alors, il y a des jeunes qui les ont intégrées d'emblée, et puis il y en a pour qui ce n'est pas le cas. Et ceux-là, en fait, ben, ils se heurtaient en permanence à des pratiques dont on leur disait qu'elles n'étaient pas adéquates dans le lieu. De notre part, à des rappels du coup au comportement, et puis ça finissait non pas par de l'inclusion, mais par des exclusions du lieu et par des logiques un peu sécuritaires. Donc finalement, redonner une règle très ferme et très stricte, c'était aussi faire pédagogie auprès de ces jeunes et permettre à tout le monde de s'approprier cette règle commune et de faire société ensemble. Le deuxième point qui a été très apprenant pour moi, ça a été vraiment une réflexion sur les fonctions et les limites de la médiathèque. C'est-à-dire qu'on avait voulu une médiathèque un peu couteau suisse, hein, avec une grande diversité de fonctions. On avait beaucoup hybridé les profils avec des designers, des travailleurs sociaux, des ludothécaires, etc. Et ça a beaucoup apporté en compétences. Et on avait aussi un projet vraiment axé autour de l'accueil du public, le lien avec le public, un espace vivant. Bon, je pense que tout ça vous parle, je ne développe pas plus. Mais à un moment donné, ça a conduit à la perte du centre de gravité. Et cette diversification, elle est devenue une différenciation. Marion a expliqué que la médiathèque, finalement, n'était plus identifiée dans ses fonctions par le public, qu'on n'arrivait plus à remplir des missions premières. Et pour moi, cette recherche, elle a vraiment permis de réarimer le projet de la médiathèque autour de son centre, c'est-à-dire la fonction culturelle d'accès à la formation et l'information, à partir de laquelle on n'a pas renoncé à la diversification des services. Mais par contre, les services étaient ancrés. Par exemple, pour le numérique, on n'était ni agents sociaux, ni agents administratifs. Mais par contre, en termes de culture numérique ou de MI, là, il y avait un travail à conduire, qui était un travail important et qui était complémentaire de celui des autres acteurs de la ville. Et puis ça nous a permis aussi de retrouver un peu la maîtrise du temps, parce qu'en fait, à force d'être phagocyté et à chaque instant par la gestion de ceci, de cela, de telle incivilité, on n'avait plus la maîtrise du temps et du projet, on l'avait perdu. Et enfin, le troisième point, c'est que cette recherche, pour moi, elle m'a permis en quelque sorte de passer du lieu au territoire et vraiment de repenser la médiathèque dans son espace urbain. Moi, je suis arrivée en bibliothèque juste après le mémoire de Mathilde Servet sur le troisième lieu, donc ça m'a beaucoup portée dans la conception du projet. Et notre métier s'est beaucoup appuyé sur cette notion de tiers-lieu qui a permis de manière intéressante de repenser les services, la relation au public et les espaces. Mais la médiathèque qui se revendique comme tiers-lieu a aussi eu cette tendance à réunir les trois fonctions. La médiathèque comme à la maison, la médiathèque espace de travail et la médiathèque de lien social. Or, si on revient aux origines du tiers-lieu, et si on revient un petit peu avant Rayoldenburg, dans les années 50, on a des villes qui grossissent, il y a la voiture, alors on a des quartiers d'affaires, on a des quartiers pavillonnaires, et on commence à avoir des architectes, des urbanistes, des philosophes, des psychologues aussi, enfin bon, tout un tas de métiers qui s'érigent contre cette construction urbaine et qui vont chercher à défendre un modèle de ville qui permette de tisser des liens sociaux denses et d'avoir de l'animation urbaine, et qui vont défendre la nécessité qu'à dans chaque espace de la ville, on ait une complémentarité des lieux. Donc à l'origine, le tiers-lieu, ça vaut dans sa fonction de tiers, c'est-à-dire en complémentarité avec une diversité de lieux. Et je pense que nous, on avait eu tendance à absorber toutes les fonctions. Donc là, finalement, ça a été une réouverture du lieu vers le territoire. Parce que, à force de se penser comme Agora, on avait oublié qu'un lieu public, ce n'est pas la place publique. Et que dans un lieu, oui, on a des fonctions, on a un règlement, on a des modalités d'accueil spécifiques. Alors, ce réancrage de la médiathèque au sein du territoire, pour moi, il s'est articulé autour de deux choses. La première, c'est que Joël est venu avec son bagage d'analyse urbaine, qu'on a complété en lisant, parce que c'était passionnant. Et vraiment, là, ça nous a permis de comprendre comment la médiathèque interagissait avec l'espace urbain, les habitations, les commerces, et comment l'implantation, la construction, l'urbanisme du lieu avait une incidence sur la manière dont se tissaient les relations. Et dans la médiathèque, contribuait à la vie dans l'espace public, mais à bien faire le distinguo entre les deux. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a permis de reconsidérer la médiathèque davantage dans son rôle d'organisateur social au sein de la ville. C'est-à-dire comment la médiathèque fait bien commun et vient s'insérer dans les différentes politiques publiques à l'échelle du territoire. Si je prends un ou deux exemples très rapides, la question de la sécurité, par exemple, notre rôle, c'était moins de gérer les incivilités à l'intérieur de nos murs que de travailler sur le langage, le symbolique et de permettre à une population de s'approprier les outils qui permettent que ça se passe bien. La mixité sociale ou l'inclusion sociale, c'est pas simplement faire venir le public de manière mixte dans les murs, c'est se poser la question de comment la médiathèque peut y contribuer à l'échelle de la ville. Et du coup, d'une certaine manière, il y a vraiment eu cette... je pense que dans un premier temps, les fonctions étaient redirigées vers l'intérieur du lieu, et cette recherche nous a permis de réouvrir, de nous réintéresser au territoire et de nous reposer la question de comment cette médiathèque pouvait participer aux différentes fonctions en complémentarité et non pas en substitution avec les autres acteurs à l'échelle de la ville. Donc en conclusion, ça a été une expérience, ça a presque été une expérience limite, parce que franchement, on travaillait pendant 8 ans dans une médiathèque avec des incivilités qui nous obligent à descendre du bureau 5 fois par jour et la réouvrir et voir une incivilité en 12 mois, c'est extrêmement même déroutant en fait. On avait l'impression de perdre l'identité du lieu, presque. Et puis, il a fallu faire un travail de deuil, un travail de deuil du projet, parce qu'il y a eu un gros travail de déconstruction, un deuil de l'équipe, parce qu'on a perdu la moitié de l'équipe en 12 mois. Et à travers ça, la recherche, cet ancrage finalement intellectuel, c'est l'analyse urbaine, et puis la relation avec les membres du groupe, pour moi, a vraiment été ce qui a été soutenant et ce qui a permis de traverser la crise et de s'en sortir, parce que c'était quand même douloureux comme période. Donc ça a vraiment été l'outil de la résilience aussi. C'est ce qui a permis que la crise, finalement, soit apprenante et ne soit pas simplement une crise dont on sort déconstruit. Donc voilà, c'était une expérience à la fois professionnelle et personnelle très riche. Et je remercie vraiment la BPI, la BF Joël et puis la ville aussi qui s'est engagée dans ce projet.
Bien, alors je prends le relais. Eh ben d'abord, merci, hein, merci vraiment. Et d'abord, je suis très émue parce que je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, hein, d'entendre des professionnels sur la durée comme ça analyser un processus d'intervention. Jamais. Et donc, je me dis, tiens, je suis chez les médiathèques. Franchement, ce n'est pas mon domaine. C'est ce que je connais peut-être le moins. Mais il y a quelque chose dans votre culture qui fait culture. Et qui fait culture et qui fait énonciation. Donc, de ce point de vue-là, l'énonciation, c'est au cœur de mon métier de psychosociologue, chercheur psychosociologue, très centré sur l'écoute des adolescents, mais aussi des professionnels et des élus et de tous ceux qui font les biens publics. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très intéressant de se dire que c'est dans votre monde que là se fait un travail d'énonciation que je n'ai jamais pu faire ailleurs ou que je n'ai jamais eu l'occasion de faire ailleurs. Peut-être parce que quand je travaille avec les éducateurs, les animateurs, on est beaucoup sur la culture de l'acte quand même. Hein, on est beaucoup sur la culture de... pas de l'efficace, mais de l'acte, de l'agir, de comprendre ce qui se passe, de l'oralité, beaucoup, on parle beaucoup, mais du rapport entre l'oral et l'écrit, on n'est pas dans le même monde, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir que là, il y a un travail qui peut se faire et que cette séance d'aujourd'hui, ben, elle est tout à fait passionnante de voir aussi ce qu'elles disent par rapport à ce qu'on a pu dire même il y a 3 mois, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi, et ça, c'est très important, je pense, le temps de l'élaboration. Elles ont changé toutes les deux de fonction, vous avez repéré. Moi, j'ai re-rencontré l'équipe de Choisy qui continue. J'ai eu l'occasion, du coup, de discuter beaucoup plus avec eux sur ce qu'ils avaient vécu, eux, parce que je n'étais pas directement en lien avec eux, parce que je ne pouvais pas tout faire. Et il y avait une fonction aussi de transformation, j'allais dire, interne à l'équipe et à l'organisation, qui était assumée par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça a été aussi l'occasion de voir comment ils avaient perçu et de faire le relais pour eux. Parce qu'eux, ils continuent, quoi. Donc, il y a quelqu'un d'autre dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Catherine, qui était la directrice de la culture et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu ce travail. Donc, effectivement, c'est une équipe qui s'est mise au boulot d'une situation pas facile. Alors, très rapidement, moi, je pense que la question des chemins culturels, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui dans les transformations de tout ce qui peut faire les violences, les anomies, et que, d'une certaine façon, on témoigne d'un chemin culturel là, dans ce qu'on a fait là. Et que ça, c'est aujourd'hui, je développe en fait des ateliers de la pensée critique dans 14 cités éducatives en lien avec une recherche qui s'appelle « Écouter les jeunes dans leur rapport au monde pour renforcer l'esprit critique » et qui a été d'une certaine façon un pas de côté du côté de la, au moment de la radicalisation, puisque cette recherche, elle a commencé avec le départ des jeunes à Daesh. Et donc moi, je crois beaucoup au travail culturel. Et que vous êtes évidemment un acteur très important des quartiers populaires, au point que quand j'ai... ça fait longtemps, hein, ça fait, je sais pas, plus de 30 ans que je bosse dans les quartiers, là. Donc j'ai vu beaucoup de partenariats. Et pendant très longtemps, je ne vous ai pas vu du tout. Et maintenant, je vous vois. Je vous vois très régulièrement, au point qu'il y a des ateliers de la pensée critique qui, dont le pilote vont être des médiathèques. Je pense à Échirolles, je pense que c'est à Échirolles. Et donc là, c'est très intéressant. On voit que les médiathèques sont rentrées dans plein d'endroits, dans la dynamique territoriale et dans la dynamique de partage de ce que c'est qu'un enjeu démocratique sur un territoire. Et donc, ce qu'on a traversé ensemble, pour moi, fait partie de ces évolutions-là. Et ça a aussi beaucoup évolué parce que les directeurs des municipalités, des fois, ne sont plus que culture. Moi, j'ai travaillé beaucoup à Gennevilliers, par exemple, à la mise en place du directeur Jeunesse Culture. C'est-à-dire que là, il y a aussi des nouveaux ponts qui se font, et je pense qu'il faut vraiment appréhender l'appareil municipal, parce que quand même, vous travaillez dans le cadre souvent de municipalité, avec lequel, j'allais dire, il y a un lien intrinsèque, quoi. Et que la politique municipale, elle est franchement importante sur qu'est-ce qui va se passer dans vos structures, quoi. Et donc, cette question même de l'évolution de l'appareil municipal, comment vous dialoguez avec, quelle interpellation, c'est pas si simple. Et ça, Raphaël, elle l'a fait depuis le début. Dire que ce travail, il a été possible parce qu'en fait, il y avait déjà un travail. C'est pas la psychosociologue, moi, je suis pas une magicienne. Et il y avait un travail. Et c'est vrai que le fait d'avoir, d'entrée de jeu, pensé un dispositif. Alors, le dispositif, il était, comme Christophe l'a dit, la recherche-intervention. Et merci beaucoup parce que si Christophe n'avait pas été là, Hélène n'avait pas été là, le contenant même de cette affaire et sa lisibilité n'auraient pas été le même du tout. On ne serait pas là, d'ailleurs. D'ailleurs, on ne serait pas là. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment cette coopération à la fois locale et nationale, avec une question partagée, a permis ce processus de travail. C'est pas une technique. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose d'une rencontre qui, à un moment donné, s'est fait sur une question qu'on a partagée ensemble. Alors, c'est vrai qu'au départ, la question, elle était plus sur mais qu'est-ce qu'une psychosociologue qui ne connaît pas grand-chose aux médiathèques, mais par contre, connaît bien les quartiers populaires, connaît bien la jeunesse, connaît bien tout ça, peut nous dire de notre rôle social. Hein. Et d'entrée de jeu, moi, quand je travaille, effectivement, je mets en place un dispositif, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais toute seule interpréter des enquêtes, mais on met en place un dispositif de travail où on essaye au moins de co-construire les conditions déjà de réalisation des travaux et en même temps la capacité de l'analyse. Et donc, on avait mis en place un dispositif, un comité de pilotage dans lequel étaient la BPI, l'ABF, la ville, et la ville c'était DGA, c'était la directrice de la culture, c'était la DRAC, mais qui n'est jamais venue parce qu'il y a eu des changements à la DRAC. Et puis, donc, c'était, voilà. Et puis là, la ville, sans me demander d'ailleurs quoi que ce soit, avait invité le directeur de la jeunesse. J'ai jamais oublié l'entrée du directeur de la jeunesse parce que je les connais bien, il faut le dire. Je me suis dit, oh là, il y a un plan là. Parce que la façon dont il est rentré, ça ne doit pas être simple, quoi. Et en fait, pourquoi ? C'était un peu... Directeur de la jeunesse, ce n'est pas le même type de niveau hiérarchique que le DGA ou la directrice culture. Donc je me suis dit, s'il l'invite là, c'est qu'il y a un... il faut que je comprenne pourquoi. Alors je n'ai pas tout de suite compris pourquoi, mais après j'ai assez vite compris quand même. Hein. Et donc c'est vrai que d'entrée de jeu, je me suis dit, oh, ce n'est pas si simple que ce qui est énoncé, quoi. J'ai bien senti qu'il y avait des systèmes de tension, mais je ne pouvais pas savoir quoi. Et puis très vite, en fait, la situation, elle a bougé. On a rencontré l'équipe avec Christophe, on a vraiment on l'a fait un commun si on allait faire vraiment des entretiens de recherche, quoi. Et puis, je voyais bien aussi, il y avait une espèce de silence dans l'équipe, tout ne se disait pas. En même temps, je voyais bien qu'ils étaient dans un truc du genre « Ah ouais, nous, on vient bosser pour les quartiers populaires, c'est formidable, mais quand même, c'est très difficile. » Et puis d'ailleurs, un peu héroïque pour certains. Pour d'autres, c'était « Mais nous, on est dans les quartiers depuis longtemps, mais on est mal reconnus par cela. » C'est-à-dire que l'équipe elle-même, elle était très compliquée dans son rapport social et dans son rapport, j'allais dire, aux quartiers populaires. Et dans ce rapport parisien de venir bosser à Choisy, mais on habite plutôt, même si on habite Montreuil, c'est pas aujourd'hui habiter Choisy et dans le quartier en question. Enfin bon, il y avait toute une dimension de l'équipe qui était intéressante parce qu'elle était très multi. Enfin, ils avaient des compétences formidables, mais je sentais bien que sur les rapports sociaux, c'était compliqué quand même. Donc tout ça, je le sentais, mais ça nous a pété un peu à la figure, il faut le dire. C'est qu'à un moment donné, ces jeunes, ils étaient plus contenables. Alors moi, j'avais bien compris que c'était compliqué avec les jeunes. J'avais bien compris que la mise, j'allais dire, dans un espace complètement relégué dans la médiathèque mettait en colère à fond les jeunes et les professionnels de la jeunesse qui étaient en fait relégués dans un coin de la médiathèque et qui ne se vivaient pas du tout dans un coin assigné, valorisé, tout ça, pas du tout. Et les autres, ils se vivaient comme gardiens de l'espace en question. Et puis, il y avait aussi l'agent de sécurité en bas. Bon, qui était vraiment pas très au clair sur sa fonction, mais il faut imaginer, c'est un super bel endroit, la médiathèque de Choisy, c'est un objet architectural magnifique, et qui est quand même un peu ambivalent pour les jeunes pauvres, il faut le dire, c'est très brillant, c'est très beau, c'est très esthétique, c'est chez eux, c'est pas chez eux, quoi, et c'est la façade du quartier. Alors ça, j'ai mis du temps. Pourtant, je suis la spécialiste quand même de la question urbaine. Mais ils m'ont tellement, faut le dire, accaparé par le partenariat, la ville, les jeunes et tout ça, que j'ai mis énormément de temps à aller comprendre le quartier qui est derrière. Et en fait, c'est une fonction de façade, la médiathèque. Et donc, du coup, ça aussi, en montant dans la médiathèque, les pilotis, tout ça, j'ai bien compris quand même que c'était compliqué et que le projet qu'ils avaient en dessous de fermer, de ne pas fermer, l'agent de sécurité, donc ce rapport intérieur-extérieur, l'effet de seuil, qui est quand même fondamental dans tout équipement, était extrêmement difficile à travailler sur cet équipement. Donc, il y avait aussi une dimension, j'allais dire, très géographique qu'il fallait pouvoir entendre pour le projet. Et ça, c'était difficile à traduire en projet. Et pour la ville aussi, et pour tout le monde. Bon, tout ça étant, comme à un moment donné, ça a trop débordé, eh bien, effectivement, les conditions de la recherche, elles n'étaient plus là. Je n'allais pas aller faire des enquêtes avec des gens qui étaient en droit de retrait. Enfin, c'était ridicule. C'était impossible. Des observations d'une structure fermée. Mais comme je suis psychosociologue, et que mon métier, c'est franchement beaucoup l'intervention aussi, j'allais pas partir. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y avait une rupture de dispositif qu'on n'allait pas faire autre chose. Puis j'allais pas les laisser quand même. C'était pas possible ça. Plus elles sont sympas, je les aimais bien. Et puis franchement, il y avait les conditions de sympathie pour le faire. Parce qu'on aurait pu aussi se dire, il y a trop d'hostilité, il n'y a pas de capacité de transformation de la demande, je m'en vais. Hein. J'aurais pu faire ça. Hein. Mais là, il y avait tout pour le faire. Il y avait tout pour le faire parce que j'avais des interlocutrices extrêmement intéressée par comprendre ce qui se passait, intéressée par dépasser la situation et courageuse. Parce que c'était difficile, hein, entre l'équipe d'un côté et l'équipe, quand même, a demandé le droit de retrait au moment où on avait quand même trouvé le moyen d'intervenir. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de l'affrontement, quoi. Et ça n'a pas rendu les choses faciles. Hein, parce que là, mais en même temps, ça a eu un intérêt, c'est que là, la ville a quand même dit, ben, en fait, ils n'y arrivent plus, parce que c'était quand même un peu du genre, tant qu'ils y arrivent, on les laisse se débrouiller, quoi. Et là, ils se sont dit, le droit de retrait, ça a quand même été un sacré choc. Et du coup, mon travail d'intervention a été possible. C'est-à-dire, ils se sont dit, oh ben, si jamais elle peut en faire quelque chose, tant mieux. Et voilà. Et du coup, on a fait un nouveau dispositif dans lequel n'était plus Christophe. Parce que là, il y avait une confidentialité à avoir, tout simplement. Dans l'intervention, on n'est pas dans l'enquête, ce n'est pas la même chose. Et là, dans l'intervention, il fallait bien, moi, que j'ai une relation confidentielle avec les deux, là. Et pas toute l'équipe d'ailleurs, pour pouvoir ensemble comprendre ce qui se passait et comprendre aussi des antériorités que finalement elle ne pouvait pas dire devant Christophe ou qu'elle ne pouvait pas dire devant Hélène. Et ça, la question de la confidentialité dans l'intervention, c'est important. On ne peut pas comme ça. Et puis d'ailleurs, pour faire cet exercice du dévoilement, parce qu'elle-même, elle ne le pensait pas forcément, mais cet exercice du dévoilement, ça demande quand même une relation de confiance avec l'intervenant tiers, qui fait que progressivement, on se met au travail du dévoilement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des trucs qu'elles n'avaient pas pensé. C'est au fur et à mesure du questionnement que, en fait, des choses ont pu se penser. Alors, qu'est-ce qu'a pu se penser ? Des choses qui visiblement touchent à votre culture, que moi, je ne connais pas bien, cette culture du tiers-lieu, avec une espèce d'idéalisation, quand même, de ce que devrait être une médiathèque, et en particulier sur l'idée que, quand même, tous les jeunes, quels qu'ils soient et quel que soit leur comportement, on doit pouvoir faire avec. Mais enfin, ça fait un certain temps que dans les locaux de jeunes, par exemple, on sait qu'on ne peut pas faire ça. Pour autant, on travaillera toujours à la non-exclusion. Alors ça, c'est une réflexion très intéressante. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Israël avec une association qui s'appelle Baitram, ça veut dire la maison chaleureuse, et qui a effectivement comme objet de travailler à l'accueil des jeunes, et des jeunes pas faciles. Et c'est des copains psychanalystes qui ont fait beaucoup de psychothérapie institutionnelle, et j'ai beaucoup appris avec eux. Et ils ont beaucoup travaillé sur le principe de la non-exclusion. C'est-à-dire comment à certains moments, eh bien, il faut peut-être dire à certains que non, c'est plus possible, mais après qu'ils puissent revenir. Donc comment on crée les conditions de l'accueil? Et donc là, il y a bien quelque chose à penser sur le lieu et sur l'accueil. On est avec des adolescents. On n'est pas avec des gens... On est dans un dispositif d'éducation. On n'est pas avec des gens autonomes, même les jeunes adultes en question. Donc si on est effectivement dans ce rapport éducatif, il faut quand même en assumer quelque chose du rapport d'autorité. Et donc du rapport aussi de comment le lieu fait autorité, et pas les personnes seulement, et surtout pas l'individualisation des personnes. Donc moi, cette culture du lieu adolescent, j'allais dire, je l'ai beaucoup, parce que j'ai beaucoup animé aussi de choses avec des adolescents dans des lieux. Et j'ai beaucoup appris avec eux là-dessus. Et c'est quelque chose qui est dans la culture jeunesse aujourd'hui. C'est pas que moi, hein. Et là, je pense que ce serait intéressant d'avoir plus de porosité, d'ailleurs, entre ce que c'est qu'accompagner des jeunes dans les quartiers populaires, la culture qu'on s'en est fait, et puis votre culture à vous. Parce que là, il y a des passerelles certainement de culturelles à trouver. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place ce nouveau dispositif avec L2, mais pas seulement, avec surtout la directrice de la culture, et puis le DGA, Olivier Panzani, qui était aussi très partie prenante. Et donc, on a fait un vrai groupe de travail. Et un groupe de travail qui a permis aussi d'énoncer au fur et à mesure ce qu'allait se passer. Et on avait effectivement... Alors, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur cette question partenariale, c'est-à-dire comment, en fait... Et la mutation, ça a été... Les partenaires ne sont pas des compétences qu'on appelle comme ça pour faire le pompier, ni même en termes de compétences, mais c'est la solidarité de tous les professionnels de l'éducation avec un bien commun dont on a besoin dans la ville, c'est la médiathèque. Et ça a complètement marché. C'est-à-dire, alors après, il a fallu s'expliquer, hein, des rapports de classe, de comment on se voit les uns les autres, de que quand même, c'est pas parce que je suis d'origine de l'immigration, de je sais pas quoi, et que tu vas me regarder comme ça. Donc c'était aussi des rapports tendus. C'est pas des choses hors conflictualité, mais ça s'est parlé. Ça s'est parlé, ça s'est énoncé avec l'idée que de toute façon, on ne peut pas renoncer à ce que cette belle médiathèque, eh ben, elle soit pour nous tous. Et ce, pour nous tous, il n'était pas partagé par les professionnels. Parce que les centres sociaux, il faut voir l'état architectural du centre social, quoi. C'est pas la médiathèque, quoi. Donc il y a ça aussi, hein. C'est, voilà, nous, vous avez un lieu magnifique, nous, on est dans des préfats, quoi. Donc c'est vrai aussi que cette question-là, ça compte, quoi. Et donc la reconnaissance par les professionnels que, de fait, ça pouvait être un bien partagé. Ben ça, c'était pas donné d'avance du tout. Donc cette question de la réunion qu'on a fait est vraiment avec l'autorité de la ville. C'était très très important pour à la fois réinstituer mais aussi partager la médiathèque comme bien commun. Mais il y avait le théâtre qui était là, il y avait l'éducation nationale, il y avait les éducateurs de prêve, il y avait les sports, il y avait, on était 60. Donc c'était un très joli moment de travail. Et puis je vous raconte en direct parce que ça c'est rigolo. Ça c'était, je crois que c'est la première journée. Ouais, c'est la première journée. Et puis je sors de là, et puis j'étais avec un copain avec que j'avais embauché pour bosser avec moi parce que j'avais un peu la trouille. Et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et puis on sort et je rencontre au pied de la médiathèque les médiateurs du quartier derrière. On commence à parler là. Il y en a un qui me dit, moi je suis de Pierre Fitte, l'autre je suis de Saint-Denis, moi je connais bien où il était, enfin bon tout ça. On commence à être un peu comme ça, en lien. Et puis tout d'un coup ça me prend, je dis, mais faites-moi visiter le quartier qui est derrière. Et là je prends conscience que moi quand même, qui suis spécialiste de ces histoires de quartier là, je n'avais pas visité le quartier depuis un an et demi que je bossais là. Donc je m'étais sacrément fait moi-même prendre par leur vision du monde, quoi. Déjà, j'avais réussi à l'ouvrir au territoire de la ville, au partenariat, mais même pas le quartier. Alors ça, je me suis dit. Et puis là, je visite le quartier. Et alors, c'est un quartier, en fait, c'est très intéressant. C'est le problème de ces nouveaux quartiers de très volontaristes de mixité sociale, où, en fait, d'une certaine façon, c'est pas forcément la ville qu'on a décidé complètement, mais c'est à une autre échelle de l'interco qui a été décidé le quartier, que de fait, ce n'est pas un bébé, on va dire, de Choisy-le-Roi en sens de quartier, mais quand même, ça les intéressait sur la mixité sociale. Pour autant, ce quartier était complètement difficile à vivre en mixité sociale parce qu'ils ont fait beaucoup de copropriétés et du HLM. Mais en copro, ils ont fait de la copro en haut. Donc, quand on est en haut, on voit la Seine, mais quand on est en bas, c'est tellement dense qu'on est vraiment complètement dans un truc obscur, quoi. Et bon, je ne vais pas la faire trop... enfin, je la fais quand même, dans la contradiction, mais les gens qui sont venus habiter là, c'est pour les trois quarts des gens noirs qui avaient le droit de vivre dans l'obscurité. Et qui c'est qui habitait dans la vue sur la Seine? Les Blancs, qui venaient de Paris. Et ce n'est pas une caricature, hein. Je vous assure que c'est vraiment comme ça. Donc vous imaginez les rapports sociaux à l'intérieur du quartier, et déjà il y a des appartements copro qui sont en train de se vendre, c'est-à-dire c'est très difficile, et comme en plus il y a ce truc de la crue de la Seine, là, c'est aussi, c'est-à-dire les bas des immeubles, et bien en fait il y a des ascenseurs qui commencent à une certaine hauteur, parce qu'en fait il faut laisser en bas pour la crue. Donc c'est très particulier comme architecture, dans un espace très dense, avec aucun espace de jeu pour les enfants vraiment, aucun espace aménagé, et effectivement... Donc, et là, les médiateurs, qui étaient rigolos comme tout, ben, ils avaient quoi, 25 ans, quoi. Et on discute, quoi. Ils me disent, ah oui, ils viennent de trois villes. Et là, je comprends. En fait, c'est des populations qui ont été déplacées de trois villes, Orly, Thiers et Choisy, et qu'on a fait amener dans ce quartier-là à cause des transformations des autres quartiers. Alors ça, on connaît par cœur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une pression qui est indirectement exercée pour qu'ils déménagent et qu'ils aillent habiter ailleurs. Même si des fois, ils trouvent que c'est mieux parce que ça sera plus grand, etc. Mais pour les gamins, ça veut dire qu'eux, ils arrivent dans un quartier qui est rien, qui n'existe pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, en fait, j'ai mis du temps, hein, quand même un peu trop de temps. Et ben, en fait, où est-ce qu'ils avaient le Wi-Fi? Sous la médiathèque. Et qu'est-ce qu'ils faisaient sous le Wi-Fi? Avec le Wi-Fi, ils appelaient tous leurs copains des autres quartiers, des quartiers d'où ils venaient. Et donc, ils débarquaient à 200 sous la médiathèque. Bah, quand même, le premier objet à prendre, c'était quand même la médiathèque. Donc, ils ont été jusqu'à amener leurs clients pour prendre la médiathèque. Et en fait, il y avait un truc très, très, très dans la dimension de ce nouveau quartier, quoi. Quand j'entends ça, franchement, je me suis dit, t'es bête. D'abord, j'étais en colère contre moi, parce que je me suis dit, quand même, depuis le temps que tu travailles là, t'as même pas... Enfin, il faut que tu sois avec ces deux médiateurs-là, tu visites pour que tu comprennes ça. Alors, j'étais très en colère. Et du coup, je vais à la mairie. Et là, c'est vrai que je débarque dans le bureau du DGA et je lui dis, non, c'est pas possible votre quartier là. Vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Alors, j'étais dans une colère. Je me dis, il va me virer là, c'est fini. Puis pas du tout. On a attendu un peu. Et puis, en fait, on a bien discuté. Et effectivement, lui-même, il a pris conscience qu'en fait, la ville n'avait pas de projet pour ce quartier. Et que, en fait, les éducateurs, les animateurs, il n'y avait rien. Et qu'il y avait un projet de centre social, mais pour dans, je ne sais pas, 3-4 ans. Enfin, d'ailleurs, qui est en construction et qui va être accéléré. Et là, il s'est dit, ben oui, ça ne va pas du tout. En fait, l'engorgement de la médiathèque, il est aussi parce qu'il n'y a pas de travail social, éducatif dans ce quartier, et qu'ils ne sont pas accueillis, quoi. Et donc, très, très vite, c'est vrai, ils se sont remobilisés parce qu'ils avaient en fait toute une capacité de travail de proximité avec les éducateurs et les animateurs. Ils se sont dit, on ne va pas attendre l'été au bord de Seine pour faire ça, on y va tout de suite. Et ils ont été très, très réactifs. Et ils ont été très, très réactifs sur la construction du centre social, auquel a participé, d'ailleurs, je crois, Raphaël, sur le projet. Donc, il s'est mis quelque chose en place, d'une collaboration avec la médiathèque sur le futur centre social. Donc, moi, je trouve que cette synergie-là, elle a été très intéressante. Et vous voyez, c'est quoi les points d'appui pour avoir fait ce travail, pour moi, hein, d'intervention ? Moi, en fait, j'ai eu 3 points d'appui dans ce travail. D'abord, j'ai appris à découvrir les médiathèques, quand même, et aussi votre fonction, enfin, ce que vous tenez au niveau culturel, social, de l'accueil, qui est quand même très, 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 très important, parce que c'est aussi une dignité culturelle que de venir à la médiathèque. C'est une dignité pour ceux qui, de fait, vont rentrer, comme on entendait tout à l'heure, dans la lecture d'un livre à partir du fait d'être fixés sur les jeux vidéo. Mais c'est aussi une conquête. C'est aussi une conquête culturelle. Et vous, vous êtes des passeurs de conquêtes culturelles. Qui peut faire justement ces passages entre, j'allais dire, le jeu vidéo et le livre ? C'est vous. Donc le livre, quand on interviewe les jeunes, moi j'ai beaucoup interviewé les jeunes aussi là-dessus, pour beaucoup il est inaccessible aujourd'hui. Donc, et puis où il est obligé à l'école, mais ça ne fait pas le plaisir de lire. Enfin, vous connaissez ça par cœur mieux que moi. Donc toujours est-il que, je dis ça pour ne pas perdre le sens de ce que c'est qu'un lieu culturel comme le vôtre. Vous n'êtes pas un théâtre, vous n'êtes pas un service jeunesse, vous n'êtes pas un centre social, et pourtant on fait tous de la culture. Voilà. Donc comment on fait culture ensemble, mais du lieu de, j'allais dire, de ce qui nous fait identité, quoi. Sinon on rentre effectivement dans des dimensions totalement anomiques, et comme les quartiers sont toujours forcément en prise avec le risque de l'anomie, pourquoi ? Parce que les quartiers ils sont toujours en prise avec le risque de l'illégalité. Il y a plein de gens dans les quartiers aujourd'hui qui survivent de l'argent illégal. Une des caractéristiques des quartiers populaires, c'est qu'on a plein de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre avec l'argent légal et qui vivent aussi de l'argent illégal. Et que ça s'est renforcé avec le corona, que de fait, on est dans l'ubérisation à fond, qu'on est avec plein de jeunes qui renoncent aux formations professionnelles, parce que de fait, l'accès au droit, c'est trop difficile quand on est en situation de survie, qu'aujourd'hui, dans les familles, il y a beaucoup de familles où on a d'abord faim, on a peur de la mort. C'est ça, les quartiers populaires, pour beaucoup, dont le quartier populaire derrière, là. Donc, si, effectivement, on n'a pas conscience des situations que vivent les habitants au quotidien, comment est-ce qu'on peut... La question de numérique, elle est centrale. C'était devenu le lieu où on faisait les démarches numériques. Mais pourquoi ? Parce que la question de la dématérialisation, elle est fondamentale aujourd'hui dans les quartiers populaires. Les gens, ils renoncent à l'accès aux droits parce qu'ils n'arrivent pas à faire les papiers. Conclusion, on a des éducateurs. Moi, je suis administratrice d'une grosse association de prêves à Paris. Je veux dire, les éducateurs, ils passent deux jours et demi par semaine à faire de la question des papiers numériques. Ce n'est pas possible. On est en train d'emboliser les situations éducatives par la question de la survie numérique. Donc, vous voyez, là, c'est des questions très importantes à renvoyer aux villes. Ce n'est pas possible que tous nos lieux éducatifs et culturels deviennent de lieux de substitution pour faire les démarches numériques que les familles ne peuvent pas faire. Donc, sans vous parler de l'éducation nationale. Donc, on est vraiment sur des questions importantes de changement de société. Et cette crise qu'on a appelée crise, elle est construite par des processus de profondeur. Les évolutions urbaines, la question numérique, la question des rapports de classe, la question des rapports d'identité. Et vous vous êtes trouvé à la convergence de tout ça. Alors, je vais juste terminer sur une chose, c'est il y a des choix par rapport au travail sur la violence. Et c'est vrai que moi, j'ai développé depuis... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la police, en fait. 5 ans, c'était trop bien. J'adorais ça, sur le rapport jeune police. Ah, j'adorais travailler avec les policiers, parce que c'est très intéressant. Ils ont une expérience tellement... forte, en fait, de la jeunesse, quoi. Et puis, c'était avant l'arrivée de notre gouvernement, qui est passé à une autre philosophie. On travaillait sur la dissuasion. On travaillait sur comment, en fait, la police pouvait être dissuasive par rapport, justement, aux actes de violence. Et ça, c'était beaucoup avec la philosophie canadienne. Et là, j'ai beaucoup appris. Et après, quand on est passé à une dynamique beaucoup plus sécuritaire, hein, qui a redonné un pouvoir très fort de l'intervention directe à la police, et qui n'a plus été sur cet effort de la dissuasion, ce qui était la police de proximité, et bien en fait, moi, j'ai développé le concept de réassurance collective. Et j'ai travaillé beaucoup d'années, hein, sur comment réassurer la vie collective des gens et les équipements collectifs. Et donc, par exemple, à Dunkerque, pendant 7 ans, on a fait des ateliers de réassurance collective parce qu'on savait que les quartiers étaient en mutation et qu'il fallait pouvoir réassurer à la fois les institutions, à la fois les habitants, et que ça n'allait pas se passer tout seul. Et que si on ne faisait pas ce travail de réassurance, forcément, les jeunes les plus fragiles allaient se manifester par la violence. Et c'est en ça qu'ils sont symptômes. C'est-à-dire qu'ils sont symptômes parce qu'ils vont aller s'inscrire là où ça ne tient pas. Et donc, du coup, si on travaille à la réassurance, si on travaille aussi au fait de ne pas renoncer à rencontrer ces jeunes-là et à penser qu'un jour, ils retourneront à la médiathèque, parce que moi, je suis pour que tous les jeunes aillent à la médiathèque, dont les plus borderline. Mais pour ça, il faut avoir une suffisante consistance. C'est comme pour pouvoir les recevoir et pour pouvoir avoir une consistance, c'est-à-dire être là. Être là, et puis c'est pas que de la conflictualité, c'est une consistance. C'est, des fois, avec les jeunes, c'est du corps à corps. Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose d'une énergie à avoir, donc d'une consistance d'un lieu. Et c'est pas des gens individuellement. Là, je dis pas du corps à corps d'individus, de professionnels et des jeunes. C'est comment le lieu est suffisamment, pas compact, mais consistant, c'est pas la même chose, pour recevoir aussi des jeunes qui peuvent être sur des positions borderline de passage à l'acte. Ben, c'est pas facile. Donc c'est vrai que l'état de la médiathèque tel que je l'ai trouvé n'avait pas cette consistance. J'espère qu'elle en a acquis de la consistance et j'espère aussi que la ville va continuer à tenir que la médiathèque est un bien commun culturel pour tous, parce qu'on peut aussi dans les médiathèques organiser de telle façon que ces jeunes-là ne viennent plus jamais à la médiathèque. Voilà. Et dans l'état de la situation que j'ai rencontrée, eh bien, au contraire, il y avait vraiment une volonté d'accueil de tous. Et sans ça, on n'aurait pas transformé la crise en processus. Et donc, je pense qu'on a vraiment transformé la crise en processus et que c'est de ce processus qu'on peut repenser l'accueil. Voilà.
Merci, merci beaucoup, Joël. Je suis certain qu'il y a des questions. Non, je ne devrais pas commencer. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez... alors, on ne vous a pas parlé du dispositif de recherche-intervention, et pour cause, hein, mais si vous avez des questions sur le sujet... Oui, il me semble que... Oui, 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 mais pas en détail. Pour pas sur les gens.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toute cette discussion très intéressante. J'avais deux petites questions. Madame Bordet a parlé de son travail avec la police. Je me demandais si la médiathèque... Enfin, quel était le rapport... Vous avez beaucoup parlé de la déconstruction puis reconstruction avec les différents services municipaux. Qu'est-ce qu'il en était avec la police, qui est toujours un point un peu délicat. Et l'autre question, est-ce qu'éventuellement, la question d'intégrer à l'équipe des gens qui habitaient le quartier, ce qui a été aussi noté par Madame Bordet, qu'il y avait un hiatus entre des bibliothécaires venus de Paris et des habitants de Choisy. Voilà, est-ce qu'il y avait éventuellement une recherche en sens?
Alors, je pense que la question de la police, il n'y a pas de police municipale à Choisy à l'époque. Par contre, il y a des agents de sécurité. Donc, c'est le secteur de la sécurité qui a été un interlocuteur permanent sur cette question-là, donc la nomination d'un agent de sécurité au pied de la dans la partie sous la médiathèque. Mais la police nationale n'interviendra jamais sur une affaire comme ça, de toute façon. Et la police municipale, il n'y en avait pas. Mais par contre, ils ont développé beaucoup le champ à la fois des médiateurs et à la fois des agents de sécurité. Donc, mais on voyait bien que... D'ailleurs, il y a des lieux qui peuvent tenir un peu comme ça, mais ça transformera le problème. Ça contenait le problème. En fait, la question du champ de la sécurité tel qu'il est pensé dans les villes peut aider à contenir le problème, mais pas à le transformer. Et moi, je pense qu'à certains moments, il faut contenir le problème avant de penser la transformation, ou en pensant la transformation. Moi, j'étais pour qu'il y ait un agent de sécurité, de toute façon, parce que c'était aussi ce qui garantissait quand même un minimum de régulation. Mais voilà, après, le choix d'une police municipale, ça pose d'autres questions sur la question de la médiation, justement, une autre vision de la sécurité. parce que là, c'est encore un autre choix. Et quant à la question, en fait, c'est pas des habitants, c'était pas forcément le fait que ce soit des habitants, mais il y avait deux médiathèques de quartier. Et le rapport entre la médiathèque centrale et les médiathèques de quartier, on voulait l'explorer avec Christophe, mais on l'a pas beaucoup fait. On l'a pas fait. Parce que justement, et là, c'était compliqué entre la génération qui gérait les médiathèques de quartier et l'arrivée de cette nouvelle médiathèque. Maintenant, je vous laisse la parole. Ça va ?
Oui, il me semble que tu as répondu sur la question de la police. Effectivement, on a eu un agent de sécurité issu des services prévention de la ville. Et ce qui a été aidant aussi, c'était les médiateurs, qui circulaient dans le quartier, ceux que Joël avait rencontrés, qui lui avaient fait visiter le quartier. Et ça, c'était une présence régulière qui venait, qui permettait qu'il y ait une médiation et qu'il y ait aussi un travail de lien, d'éducation avec les jeunes qui se faisait là où ils étaient et en dehors des murs de la structure.
Et sur les médiathèques de quartier, là, tu ne veux pas parler un peu ?
On va peut-être prendre des questions.
Deux mots sur médiathèque de quartier, médiathèque centrale, parce que je pense que c'est une question importante.
Oui, on en reparlera.
On en reparlera. Bon, alors.
Oui, bonjour. J'ai trois questions. J'ai une question sur la charte d'accueil dont vous avez parlé à un moment donné. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il y avait deux jeunes qui, a priori, avaient... refuser de la signer. Je voulais juste savoir finalement qu'est-ce que vous faites. Est-ce qu'ils sont quand même acceptés dans la médiathèque ou pas? Ma deuxième question, c'est sur l'espace ado dont vous avez parlé. Je voulais juste savoir si, ce que vous aviez fait, si c'était juste, un aménagement. Je voulais juste savoir ce que vous en y avez fait concrètement. Et ma troisième question, c'était sur le principe de non-exclusion. Dont vous avez parlé. Après, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est juste pour savoir si vous arriviez à ne pas exclure des jeunes et finalement comment vous y arrivez concrètement face à des jeunes qui refusent finalement, si c'est un problème de bruit ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour justement ne pas arriver à exclusion?
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Déjà, sur la question de la charte, effectivement, il y a deux jeunes qui ont refusé de la signer, qui l'ont signée ensuite, en fait. Je pense qu'il y avait vraiment... Alors, ce jour-là, ils ne sont pas rentrés quand ils ont refusé. Enfin, nous, c'était vraiment les règles du jeu, c'était très clair. C'était soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord, mais dans ce cas-là, tu ne rentres pas. Je pense qu'ils étaient vraiment... on était dans une relation très conflictuelle. C'était aussi leur façon à eux de pousser le cadre et de nous dire, on n'est pas d'accord, donc on ne signera pas ton truc et on ne vient pas aujourd'hui. Mais 15 jours après, ils sont revenus, ils ont signé, parce qu'il y a aussi la force du groupe, et de voir que tous les autres revenaient et avaient accepté, ils se sont pliés aux règles aussi. Et puis, malgré tout, le fameux agent de sécurité qu'on a au rez-de-chaussée n'est pas qu'un agent de sécurité, il a aussi vraiment un rôle de conciliateur, il connaît très bien les jeunes du quartier et quelqu'un de la ville, et a beaucoup discuté avec eux aussi, et du coup, amorce les discussions sur cette question des règles, même avant qu'ils rentrent dans la médiathèque. Sur la question de l'espace ado, je l'évoquais très brièvement, l'espace ado, ça a été une solution, Joël l'a dit, c'était un échec, mais pour nous, c'était une solution pour ne plus subir, finalement. Enfin, et en fait, on était tellement submergés par le nombre, par le temps qu'on passait, qu'on n'a même pas pu le penser en termes de projet. C'est-à-dire qu'on a transformé une salle qui, en plus, effectivement, était une salle un peu reléguée au fond du bâtiment pour faire cet espace ado, en mettant un minimum de collections, en mettant des jeux, en mettant des espaces de parole, des collègues. Mais en fait, c'est devenu très vite une annexe de la maison de la jeunesse, en fait. On n'a pas eu la capacité et le temps de penser ce projet culturel. Oui, à cette période, en fait, on n'avait plus de gestion du temps. Et moi, une des choses qui m'a le plus marquée, par exemple, on avait énormément de collègues qui étaient compétents sur la question des ados, y compris sur le volet culturel, mais aussi sur le rapport avec les ados. Et c'était devenu même un des critères majeurs de tous les recrutements à partir de l'ouverture en 2013. Et malgré ça, on en venait à refuser des projets comme le concours des lycéens, des projets qui nous étaient demandés par d'autres partenaires parce qu'on n'avait pas le temps et pas la capacité de le faire. Donc oui, l'espace ado, on s'est planté, clairement. Ça a même précipité, je pense, les incivilités et la crise.
Et concernant les exclusions, on avait des process, en fait. Donc, en cas d'incivilité, on reprenait une fois, deux fois, il pouvait y avoir une exclusion ensuite, et la durée de l'exclusion, elle dépendait de la gravité des faits, quoi. Ça pouvait être une semaine, deux semaines, trois semaines, et c'est allé jusqu'à six mois, un an, mais pour des faits de violence qui ont conduit à ce que des plaintes soient portées, enfin, des choses assez graves. On avait un processus de retour à la médiathèque, c'est-à-dire que le jeune qui était exclu, pour pouvoir revenir, il fallait d'abord que la durée d'exclusion soit passée, qu'il y ait une rencontre avec ses parents et qu'il ait fait une séance d'immersion. Alors, il venait raconter des histoires au bébé avec nous. Enfin, il choisissait un petit peu en fonction aussi de son appétence. L'objectif, c'était pas de le mettre en difficulté, c'était au contraire de lui faire découvrir les coulisses. Donc, on a effectivement des jeunes qui ne sont pas revenus, mais la balle était dans leur camp, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne prenaient pas le rendez-vous. Et nous, quand les jeunes se présentent, on dit « mais viens, viens, et tu vas pouvoir revenir », mais simplement, il y a des étapes à passer.
Oui, peut-être sur le principe de non-exclusion dont j'ai parlé, c'est vraiment des choses qu'on a beaucoup travaillées en psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois pour faire que le lieu puisse être suffisamment contenant, ben, il faut aussi faire qu'il ne soit pas en permanence éclaté, et que pour ça, il faut accepter, pour justement ne pas exclure, que temporairement, des jeunes puissent être exclus. La question, c'est de ne pas les perdre de vue. Ce n'est pas la même chose. Et pour ne pas les perdre de vue, en général, les jeunes en question, ils sont connus. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Et souvent, ils ont des éducateurs qui les suivent ou ils ont d'autres personnes qui les connaissent bien. Donc la question, c'est comment vous, en tant que médiathécaire, vous créez des liens, par exemple avec des éducateurs, qui font qu'à un moment donné, ce jeune va pouvoir prendre le risque de revenir à la médiathèque et accompagner. La question, c'est de ne pas les perdre de vue. C'est une vingtaine, là, hein, dont il s'agit. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire éclater un lieu parce qu'ils sont en permanence en train d'éclater le lieu. Et l'histoire de la charte, c'est plutôt, ça ramène à une fonction sur l'autorité. C'est qu'est-ce qui fait autorité, à un moment donné, par rapport à des jeunes, pour protéger aussi d'autres jeunes, hein, et d'autres parents, etc., pour qu'ils puissent venir. Voilà. Donc, et ce travail-là, par exemple, avec les éducateurs, c'est un travail qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire, dans un local de jeunes, ça peut tout à fait dire, ben non, maintenant, en ce moment, c'est plus possible. Et on en parle, d'ailleurs, avec les autres jeunes. Et ça, c'est travailler ensemble. Mais la question, c'est de pas les perdre de vue. C'est-à-dire, quel est l'éducateur, quelle est la personne qui, de fait, je vais pouvoir, quelque part, lui dire, t'es toujours accueilli, mais il y a des conditions. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas planter ton couteau au milieu, là, puis te faire la terreur autour de toi. Ça non, jamais. Voilà. Et donc, franchement, ça, c'est une culture des professionnels de la jeunesse. On sait bien qu'ouvrir un local de jeunes aujourd'hui, et même avec les 16-25 ans, hein, là où on a été souvent en difficulté, c'est... Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les locaux autonomes. Alors, par exemple, à Rennes, à un moment donné, ils avaient fait un truc vachement bien. Les jeunes devaient se constituer en groupe constitué, donc institué, et ils devaient partager la vie d'un groupe, le lieu, en intergénérationnel avec des plus âgés, pour montrer qu'effectivement, ils pouvaient occuper un local. C'est-à-dire, on ne peut pas penser comme ça, qu'il suffit d'accueillir les jeunes pour que ça marche. Ce n'est pas possible, ça. Surtout que... Enfin, je ne vais pas partir là-dessus, mais il faut comprendre le rapport au lieu et à la domination territoriale à l'intérieur des quartiers. Donc il y a toujours un enjeu de domination territoriale. Quand en plus, il n'y a aucune intervention éducative et sociale auprès d'eux, alors qu'ils viennent d'ailleurs. Mais il y avait un objet magique, là, c'était la médiathèque. Donc vous voyez, je crois que la question, elle est aussi à la fois et théorique, clinique et pragmatique. Et que ce n'est pas une question idéologique de « il faut ou pas exclure ». Il faut de toute façon trouver les conditions et les processus pour que quand on a le principe de non-exclusion, on se dise qu'effectivement, on a l'autorisation à certains moments de dire non, ça s'arrête là. Mais par contre, tu ne disparais pas. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet de travail. Hein. Et là, je parle bien d'adolescents, de jeunes adultes. Quand il s'agit d'adultes, je n'ai pas travaillé là-dessus de la même façon. Mais je pense qu'on ne parle pas des gens de 70 ans comme on parle des gens de 45 ans, comme on parle des gens qui ont 20 ans, 25 ans, ni des jeunes qui ont 12 ans ou des enfants. Et c'est vrai que dans la médiathèque, vous accueillez tout le monde, dont les bébés. Vous êtes un vrai lieu intergénérationnel, quoi. Moi, j'ai été passionnée par votre truc avec les bébés. Et les parents, là. Mais ça, c'est possible que si le lieu, il n'est pas violent. Donc, à un moment donné, vous avez un sacré challenge quand vous voulez accueillir, de fait, tous les âges et toutes les... Voilà. Donc, c'est ça.
Ce qu'on peut juste peut-être préciser, on a fait signer 1200 chartes par les 10-18 ans, et à chaque fois, on a instauré un dialogue avec eux, on leur a demandé ce qu'ils pensaient des nouvelles règles, ce qu'ils pensaient de la charte, comment ils appréhendaient là, ce qu'on leur proposait, en fait. Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'à part un ou deux, mais qui après sont revenus, ils nous disaient tous, mais même les gamins qu'on virait régulièrement, parce qu'ils avaient des comportements problématiques, nous ont dit, oh, ben, c'est normal, hein, c'est bien. D'ailleurs, souvent, il y a trop de bruit. Alors. Donc, finalement... Autant ils savaient s'insérer dans les failles, mais autant quand ça s'est solidifié, ils reconnaissaient et ils validaient cette solidité, en fait.
Je crois que nous allons devoir, parce que nous avons pris un peu de retard, nous allons devoir nous interrompre, mais de toute façon, on peut dire que l'expérience continue, puisqu'il y a un projet en cours, un projet d'écriture, pour tout vous dire. Mais n'hésitez pas aussi à vous connecter sur le site BPI Pro si vous souhaitez poursuivre la discussion. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h tapante pour la deuxième partie de la journée d'études.